Isabelle Falardeau, c'est à vous.
Oui, bonjour. Alors, je vous parle donc de cette chronique d'Isabelle Huot qui est parue dans le Journal de Montréal le 22 octobre dernier, « Prévention du cancer du sein, mes conseils ». Alors, on disait tout à l'heure, octobre, c'est le mois de la sensibilisation du cancer du sein. Et Mme Huot nous rappelle qu'une Canadienne sur 8 sera atteinte d'un cancer du sein au cours de sa vie, selon les statistiques, et une sur 34 en mourra. Donc, c'est quand même assez élevé. Et le cancer du sein, ça représente 25 % de tous les nouveaux cas de cancer annuellement. Et chaque jour, 78 Canadiennes reçoivent un diagnostic de cancer du sein. Donc, ce sont des statistiques qui sont préoccupantes, mais il y a moyen de réduire nos risques de développer la maladie en modifiant nos habitudes de vie. Et voilà pourquoi ces conseils sont si importants. Là, c'est vraiment un article qui s'adresse aux femmes, bien qu'il y a des hommes aussi qui sont atteints du cancer du sein, mais c'est dans une très, très petite proportion. Donc, j'imagine que c'est pour ça que Mme Huot a adressé son article vraiment plus aux femmes. Donc, le premier conseil, c'est un conseil qu'on donne souvent et qui ne pourra peut-être pas plaisir, mais réduire sa consommation d'alcool.
Oui, alors qu'on voit une photo, il y a deux femmes qui rient et à la main, un verre de vin géant.
Oui, donc c'est peut-être pas... c'est pour montrer ce qu'il ne faut pas faire. Donc, fait comme je dis, pas comme je fais. Donc, c'est ça, les études montrent une augmentation du risque de cancer du sein autant avant et après la ménopause avec l'augmentation de la consommation d'alcool. Les méta-analyses montrent une augmentation de 5 % avant et 9 % après la ménopause du risque, donc de cancer du sein, avec une consommation quotidienne de 10 g d'éthanol. Donc ça, c'est vraiment pas tant que ça. 10 g d'éthanol, c'est, pour vous donner une meilleure
idée. Un aperçu,
oui. Oui, c'est ça, c'est une consommation quotidienne légèrement inférieure à un verre standard qui contient 13,45 g d'alcool. Donc, pour rappel, un verre standard, donc ce qu'on veut, c'est boire moins que ça, mais un verre standard, c'est une bouteille de bière ou de cidre, là, des bouteilles de 341 ml à 5 % d'alcool, un verre de vin, donc environ 142 ml à 12 % d'alcool ou un verre de spiritueux de une once et demie ou 43 ml, donc à 40 % d'alcool. Donc, on atteint ça quand même assez rapidement, je vous dirais. Et les mécanismes par lesquels l'alcool peut influencer le cancer du sein, le risque de cancer du sein, plutôt, sont assez méconnus. Et c'est pas encore clair si ça peut pas être plutôt lié à l'alimentation des personnes qui consomment de l'alcool, parce que les études montrent que les grands consommateurs d'alcool ont un apport insuffisant en plusieurs nutriments essentiels comme le folate, et ça pourrait les rendre vulnérables à la cancérogenèse. Donc c'est pas clair s'il y a causation ou corrélation, mais dans le doute, ça peut pas nuire de boire moins d'alcool.
Ouais. Qu'est-ce qui est clair, c'est que la modération a bien meilleur goût, comme dirait l'autre.
Voilà. Deuxièmement, consommer des aliments riches en calcium, parce qu'une alimentation riche en calcium pourrait diminuer le risque de cancer du sein, autant, encore une fois, avant et après la ménopause. Le calcium est un minéral qui est impliqué dans plusieurs fonctions de l'organisme et il a un rôle probablement important dans la cancérogenèse, via la régulation de la prolifération, la différenciation et l'apoptose cellulaire. Ça, je me suis posé la question, c'était pas expliqué c'est quoi, mais l'apoptose cellulaire, c'est la fameuse mort cellulaire programmée. Donc, nos cellules ont toute une vie...
L'obsolescence programmée.
Préprogrammée, oui, c'est ça. On a tous ça dans notre corps. Et les méta-analyses montrent une diminution du risque de 13 % avant la ménopause et 4 % après, avec une consommation de 30 mg de calcium. Ensuite, le troisième conseil, consommer des légumes non féculents. La consommation de légumes faibles en glucides, c'est pour ça qu'on les recherche non féculents, comme par exemple le brocoli, le poireau, l'aubergine, les épinards, pourrait réduire le risque de cancer du sein à récepteur d'estrogène négatif. On parle de cancer du sein à récepteur d'estrogène négatif quand les cellules cancéreuses n'ont pas de récepteur d'estrogène. Il y a différents types de cancer du sein et il y en a qui sont à récepteur d'estrogène et d'autres non. Donc, déterminer la présence ou non de récepteur d'estrogène permet aux médecins de choisir un plan de traitement, par exemple l'hormonothérapie. Et les composés phytochimiques qui sont présents dans les légumes expliqueraient cet éventuel effet protecteur. Ensuite, on est toujours dans les légumes avec le quatrième conseil, consommer des aliments qui contiennent des caroténoïdes.
Donc, des carottes.
Entre autres, effectivement, puisque les caroténoïdes sont des pigments de couleur jaune, orange et rouge et leur consommation pourrait aussi réduire le risque de cancer du sein. Certains caroténoïdes comme l'alpha-carotène et la bêta-carotène, le bêta-carotène, on parle toujours du bêta-carotène, mais il y a aussi l'alpha-carotène, peuvent être convertis en rétinol, qui est une vitamine A qui peut avoir un impact sur différents processus qui sont impliqués dans la cancérogenèse. Et en plus, ben, les caroténoïdes ont des propriétés antioxydantes qui protègent l'ADN des cellules contre les dommages causés par les radicaux libres. Et les caroténoïdes montrent aussi des propriétés anticancérigènes dans des études qui ont été menées sur des cellules de cancer du sein. Donc, on n'est pas encore sur des gens qui ont consommé, mais quand même sur les cellules, donc ça donne une idée. Et les sources alimentaires de caroténoïdes incluent différents fruits et légumes, comme vous l'avez dit, la carotte, mais aussi la tomate, la citrouille, la patate douce, le cantaloup, donc on est dans les légumes oranges, mais aussi les épinards. Alors, les épinards, on vient d'avoir une deuxième bonne raison d'en consommer, si vous suivez bien.
Oui, absolument.
Cinquième conseil, ça aussi, c'est plus difficile, plus on vieillit, atteindre ou maintenir un poids santé.
Ouais.
Parce que vraiment, on a démontré là, qu'une masse grasse plus importante à l'âge adulte, qui est mesurée par l'indice de masse corporelle, le fameux IMC, mais aussi par le tour de taille et le rapport taille-hanche. Ça, c'est la première fois que j'en entendais parler. Donc, ces mesures-là et une prise de poids globale plus importante sont des causes convaincantes du cancer du sein post-ménopausique. Donc, on parle vraiment là, de quand on est plus vieux, comme vous et moi, Hélène.
À partir de quoi? 45-50?
Ouais, nous, on... ça, parce qu'en fait, ça dépend des femmes. Là. Moi, là, je suis un petit peu dans la ménopause en ce moment, à 53 ans. Donc,
ouais.
On est là. Et vraiment, les méta-analyses montrent une augmentation statistiquement significative du risque de cancer du sein post-ménopausique. Donc, de 12 % avec chaque augmentation de 5 points de l'IMC. Ça, pour vous donner une idée, là, on est jusqu'à 25, on est entre 18 et 25, on est dans un poids santé et au-delà de ça, on ne l'est pas. Moi, mm-hmm. il faudrait que j'ai fait le calcul tout à l'heure là, en me préparant pour la chronique et il faudrait que je perde 10 livres là, pour okay. me retrouver dans la bonne zone.
Mais 10 livres, il me semble que c'est pas trop décourageant.
Faire ça. Voilà. Ouais. Surtout si je bois moins d'alcool puis que je mange plus de légumes qui n'ont pas de glucides.
Ben oui, puis Isabelle Huot vient vous convaincre de faire ça.
C'est ça, exactement. On diminue ensuite de 11 % avec chaque augmentation. On augmente, pardon, de 11 % le risque avec chaque augmentation de 4 pouces du tour de taille et encore un autre 10 % avec chaque augmentation de 0,1 unité du rapport taille-hanche. Ça, le rapport taille-hanche, c'est qu'on divise le tour de taille par le tour de hanche et on veut pas que ça soit plus haut que 0,85 pour les femmes et 1 pour les gars. Donc, plus notre taille est petite par rapport à nos hanches, en gros, là, c'est ça. Plus on est protégé.
Okay.
Et finalement, 6 % d'augmentation de risque avec chaque prise de poids de 11 livres à l'âge adulte. Donc, c'est toutes des choses qui vont ensemble, hein, parce que si on perd du poids, ben, on risque aussi de perdre du tour de taille, idéalement.
Alors, mangeons des épinards au lieu de manger de la poutine, puis faisons de l'exercice.
Exactement. Et le soya, pour au contre, hein, il y a souvent eu des peurs parce qu'il y avait des études à cause que le soya contient des phytoestrogènes. Donc, justement, on parlait de ces cancers à estrogènes. Donc, il y avait eu des possibilités qu'il y ait des risques. On en a déjà parlé à l'émission. Ça a été vraiment démenti. Et une étude sur la santé des femmes de Shanghai a notamment démontré un risque significativement réduit de 22 %. Donc, quand on compare les personnes qui consomment le plus de soya à celles qui en consomment le moins.
Ça a un rôle de protection, donc.
Exactement. Puis ça peut vraiment prévenir même les récidives et même pour les cancers à estrogène. Donc, c'est vraiment une super bonne idée de consommer du soya si vous n'êtes pas comme moi allergique.
Les boissons de soya, il y a du soya un peu partout, hein?
Ben oui, c'est ça, exactement. Puis je ne sais pas s'il me reste du temps pour une petite suggestion de lecture.
Oui, il vous reste une bonne minute trente secondes.
Alors, parce que j'ai une amie herboriste qui savait que j'allais parler du cancer ce matin et qui m'a donné une suggestion de lecture. Malheureusement, c'est en anglais, mais si vous comprenez l'anglais, c'est disponible en version audio si vous avez un compte Audible, donc c'est sur Audible. L'auteur s'appelle Sean... Là, je l'avais dans une autre page, mais ça a fermé. Mais c'est Cabrera, donc Chanchal Cabrera, C-H-A-N-C-H-A-L Cabrera. Et là, on ne parle pas là, d'utiliser les plantes au lieu de traitement, mais plutôt, par exemple, si vous suivez des traitements de chimiothérapie, ça peut certaines plantes peuvent vous aider à mieux supporter les traitements. Il y en a certaines qui pourraient même les améliorer, donc les faire fonctionner davantage. Il y a aussi évidemment des plantes qui peuvent prévenir l'apparition du cancer. Donc, on parle vraiment pas de remplacer la médecine, mais c'est vraiment quelqu'un qui travaille depuis des décennies avec des malades, des personnes atteintes de cancer qui suivent des traitements d'oncologie. Donc, c'est vraiment un livre qu'on recommande. Donc, c'est An Herbal Approach to Reducing Cancer Risk, Helping Patients Thrive During Treatment, and Minimizing Recurrence.
C'est ça le titre?
Une approche d'herbothérapie pour réduire les risques de cancer, aider les patients durant leur traitement et minimiser la réapparition du cancer.
Et puis, est-ce que ce livre apparaît dans le livre des records Guinness comme étant le livre qui a le plus long titre?
C'est ça. Donc, c'est mieux de chercher C. Cabrera. Holistic Cancer Care.
Et là, okay. Vous allez, si on lit l'anglais.
Trouver sur le, ouais, c'est ça, évidemment. Malheureusement, c'est
sur
pas
sur Audible ou Audible.
Voilà.
Merci beaucoup, Isabelle. Vous allez rester avec nous?
Oui.
Parfait.